un podcast France Culture. France Culture. Les midis de culture. Élise Lépine.
Bonjour et bienvenue dans l'arène, celle où s'affrontent carnes et cagoles et où sévissent les mauvaises filles. Je suis en compagnie de deux romancières ayant fait le choix de mettre en scène des femmes violentes, des femmes indépendantes, des femmes dangereuses qui forcent le respect en vous arrachant parfois la bourse et même la vie. Tout ça en poésie. Esther Teilhard a publié Carnes aux éditions Pauvert en janvier dernier. Premier roman incandescent dans lequel son héroïne étudiante quitte Marseille pour faire les beaux-arts de Cergy et trace son chemin entre la ville monstre de son enfance et une capitale peuplée de créatures impropres à l'amour. Charlotte Bourlard a fait paraître en mars son deuxième roman, À trois, on saute, hymne à la liberté et à la sauvagerie de deux amis pickpockets aux enfances fracassées que leur road trip au cœur de la Belgique mène tout droit vers la tragédie. Deux romans intenses portés par des plumes aussi puissantes que leurs héroïnes, accrochez vos ceintures pour ce voyage à leur côté. Bonjour Esther Teilhard.
Bonjour Élise.
Vous êtes originaire de Marseille, comme votre narratrice, et vous avez vous aussi étudié aux Beaux-Arts de Cergy. Votre premier roman, Carnes, est venu réveiller les éditions Pauvert qui étaient en sommeil. Bonjour Charlotte Bourlard.
Bonjour.
À trois, on saute, publié Au diable Vauvert, et votre deuxième roman après L'apparence du vivant, sorti en 2022 et qui vous a valu le prix SAD. Pour commencer, j'aimerais savoir quelle a été l'étincelle qui a allumé les braises de ces romans, Charlotte Bourlard. Comment est née l'idée de À trois, on saute? Est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est une idée? Une rencontre? Un rêve que vous avez fait la nuit?
Alors je dirais qu'il y a deux points de départ pour résumer. Il y a cette envie de découvrir ce milieu nautique qui existait à deux pas de chez moi et qui m'intriguait. Ces gens en fait qui vivent sur un bateau sans forcément bouger, mais c'est leur quotidien de vivre sur l'eau, c'est leur maison et donc ça implique un quotidien assez particulier. Donc j'avais envie d'aller à la rencontre de ce milieu que je trouvais romanesque. Parce qu'en fait quand on monte sur un bateau, on rentre dans une atmosphère. Et moi, mes romans partent de là, d'une ambiance, d'une atmosphère. Et puis, il y a ma rencontre avec une Rachel. Voilà, il y a parfois des rencontres inspirantes dans la vie, des gens qu'on rencontre et on a l'impression de rencontrer le personnage d'un roman. Et il y avait une telle authenticité chez elle, un tel romanesque. J'avais envie de m'imaginer en train de vivre des aventures avec cette Rachel.
Voilà, parce que pour poser le décor, donc Rachel et Marie sont deux amies inséparables, on en reparlera, hein, mais qui vivent sur une vedette à Liège et qui exercent l'activité de pickpocket, des trousseuses de voyageurs et voyageuses, notamment dans des trains. Esther Teilhard, même question pour vous, à quel moment et de quelle façon Carnes, ce roman Carnes au pluriel, ces Carnes sont arrivées dans votre imagination?
Ah bah, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Charlotte. Il y a certaines personnes qui donnent envie d'écrire. Alors moi, quand j'ai grandi à Marseille, je passais mon temps, petite fille, à regarder les cagoles et à vouloir leur ressembler. Et elles ne voulaient pas de moi, absolument pas de moi. Je les intéressais pas. Et j'ai commencé par les dessiner. Mais j'étais une très mauvaise dessinatrice. C'était catastrophique. Et donc j'ai commencé à écrire en les regardant, pour pouvoir leur parler, vu qu'elles ne voulaient pas de moi. C'était une manière d'accéder à elles.
J'ai l'impression que le fait d'écrire a pris un peu la suite d'une ambition pour le dessin, les Beaux-Arts de Cergy, les dessins de Cagole, qui n'a pas vraiment abouti.
Oui, c'est vrai qu'aux Beaux-Arts, j'étais une peintre catastrophique, ça n'allait pas du tout. Et j'aimais la caricature, j'aimais la caricature et je passais mon temps à dessiner des grosses femmes tout en chair et tout en rondeur, mais c'était pas terrible quoi. Donc j'ai commencé à écrire et j'ai réussi à trouver ici quelque chose qui me plaisait plus. Donc c'est vrai que le dessin fait partie un petit peu de ça.
Donc peindre avec des mots, avant d'échanger plus avant sur le texte, qu'est-ce que c'est ces carnes? C'est quoi une carne, Esther Teilhard?
Une carne, c'est une vraie saloperie. Hein. Une carne, c'est une femme peu commode. En général, c'est précédé de l'adjectif vieille carne. Donc une carne, c'est une femme dure, une femme qui se laisse pas faire, une femme qui a de la gouaille, mais qui a pas de tendresse, quoi, qui est pas dans l'effusion de caresses, non, c'est certain. Une femme difficile.
Il y a différents types de carnes dans vos romans. Charlotte Bourlard, vous avez fait, après des études en littérature et en théâtre, beaucoup de petits boulots. Alors, je parle de votre biographie avec des guillemets dans la voix, puisque vous m'avez appris juste avant l'émission que vous aviez inventé des choses dans vos biographies sur Internet et que vous n'aviez pas, par exemple, fait de formation en taxidermie, comme j'avais cru l'apprendre en préparant l'émission. Vous avez publié L'apparence du vivant en 2022. C'est une histoire qui se passait dans le milieu de la taxidermie et du corps. Comment s'est passée pour vous l'aventure de la publication et l'avancée vers le métier d'écrivaine, en vrai, hein? Élément biographique vérifié.
Oui, donc c'est vrai qu'un jour on m'a demandé d'écrire ma biographie, donc j'ai écrit ma biographie, et quand j'écris j'invente. Je trouvais que ma biographie était un peu chiante, et donc voilà, je l'ai un peu pimentée, j'ai un peu raconté n'importe quoi. Mais en fait j'ai cette volonté d'écrire depuis que je suis petite, et voilà, c'est ça que je voulais. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'exprimer oralement, et avec l'écriture il y a quelque chose qui se débloque. Grâce à ma mère, j'ai grandi entourée de romans. C'est vraiment elle qui m'a transmis cette passion de la littérature, et je voulais écrire à tout prix. Donc j'ai d'abord fait des études de lettres, parce que j'étais trop jeune à l'époque pour me sentir capable de me lancer dans un roman. Et puis voilà, j'avais envie de vivre des aventures et des petits boulots et des voyages en attendant de me sentir prête à écrire. Et c'est mon passage à l'INSAS à Bruxelles qui a vraiment été déterminant, où je me suis essayée à l'écriture de scénarios et l'écriture de pièces de théâtre. Et voilà, la rencontre avec Jean-Marie Piem qui m'a vraiment poussée, qui m'a forcée à prendre confiance en moi.
Marie Piem,
qui est un dramaturge belge et qui est aussi professeur à l'INSAS, qui est un monsieur que j'adore.
Qui est venu débloquer cette écriture chez
vous. Ah, il m'a poussée.
L'apparence du vivant, vous a valu donc le prix Sade. Sade est un point commun entre vous, hein. Je sais pas si vous le lisez toutes les deux, mais vous, Esther Teilhard, vous avez été publiée chez Pauvert, Jean-Jacques Pauvert, premier à publier ouvertement les écrits de Sade. Vous avez publié ce premier roman à 23 ans, Esther Teilhard. Comment ça s'est passé pour vous, cette aventure éditoriale? Est-ce que vous n'avez pas eu le temps finalement de vivre 1000 vies avant la publication de ce livre? En tout cas, pas d'avoir de longues périodes de travail?
Oui. Ça s'est fait par chance, je pense, comme ça peut arriver parfois. J'ai rencontré un éditeur qui était féru de sujets de mauvais augure et qui s'est intéressé à mon univers, et on s'est rencontrés. Il a été super. Il s'appelle Clément Brown-Villeneuve, et je tiens à le remercier parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup poussée. Il y a des gens comme ça qui donnent la chance à des personnes qui déboulent, et c'est important aussi de lancer. Et on est rentré dans une sorte d'osmose. On s'est tout de suite très bien entendu et ça s'est fait rapidement. Et c'est vrai que c'était totalement inattendu. Oui.
On salue Clément Brown-Villeneuve qui a un œil pour l'édition aussi
oui.
Américaine indépendante et les auteurs underground. Pour entamer la discussion, nous allons écouter une lecture du journal intime de l'autrice et poétesse Mireille Havet, journal qu'elle a tenu entre 1913 et 1929.
Mercredi 21 mai 1919. Un mois depuis les dernières pages. Un mois passé plus dans les larmes, l'angoisse et l'insomnie que dans la félicité attribuée à l'amour. Est-ce l'amour? Un envoûtement? Ou simplement la terrible crainte de l'ennui d'une vie sans dessein, sans caprice, d'une vie sans émotion sentimentale? N'est-ce qu'un cramponnement désespéré à l'aventure tant cherchée? J'arrive à ne plus savoir, peut-être même à ne plus vouloir savoir. Je me laisse entraîner, je me laisse aller à tout, sans aucun contrôle, sans aucun projet, et cela comme si je n'avais pas 20 ans, et toute ma vie à faire, et ce beau printemps à remplir de vérité et de bonheur. Non, c'est incroyable. Aveugle et volontaire, je m'en vais dans ce qui me fait le plus mal, me déçoit le plus et me fatigue le plus. Si sottement fière d'avoir une liaison et une amie, que je sacrifie tout à ce petit orgueil. J'ai laissé pour cela ma famille, tous mes amis, tous mes projets d'avenir, et je vis comme une brute, comme une ensorcelée. Et les jours passent. Et je ne veux surtout pas qu'on me délivre.
Je vis comme une brute, comme une ensorcelée. On croise Mireille Havé dans votre roman, Esther Teilhard. Vous en parlez beaucoup, vous en parlez souvent aussi en interview. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Mireille Havé ?
Mireille Havé incarne pour moi l'obscénité dans tout ce que ça peut avoir de contradictoire. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui écrit déjà extrêmement jeune des écrits hantés par le désir, par le sexe, très très sombre parfois, très rocailleux, et qui en même temps a une forme d'innocence, de pureté. C'est un mot qui est pas très à la mode, la pureté, mais moi je trouve ça très beau en écriture, la pureté. Une pureté absolue, et ses écrits, c'est son journal, est vraiment à se pleurer de beauté, à se damner, à pleurer de beauté. Enfin, j'insiste et je conseille tous les auditeurs de lire le journal de Mireille Havé, qui est édité aux éditions Claire Polan. C'est magnifique, c'est le désir à son état le plus primaire, le plus brutal. C'est une femme qui était très violente, qui avait un rapport extrêmement brutal à la vie, à l'existence, à la défonce, parce qu'elle passait son temps à se droguer, au sexe, et qui en même temps, oui, a une forme de candeur absolue. C'est très très beau.
Mireille Havé tenait un journal, donc est-ce que vous en tenez un aussi, Charlotte Bourlard? Est-ce que vous notez des phrases comme « je vis comme une brute, comme une ensorcelée » dans un petit carnet?
Ah, je tiens un journal, oui, tout à fait.
Et il vous sert pour l'écriture de vos romans?
Non, ça n'a rien à voir. C'est de l'écriture vraiment pour moi, sans aucune ambition et où je me prends pas la tête, contrairement à l'écriture romanesque. C'est vraiment pour moi, par rapport à moi.
Sans ambition de publication,
ah oui, non,
ni même de fictionnalisation ou de garder des anecdotes de la vie pour en faire plus tard du roman.
Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça fait partie de moi et de c'est complètement différent comme exercice.
Vous prenez au pied de la lettre l'expression journal intime. Vous tenez un journal, Esther Teilhard?
Oui, j'en tiens un assidûment depuis plusieurs années, mais c'est une activité, je trouve, extrêmement effrayante. Pour moi, c'est comme la psychanalyse, c'est-à-dire que parfois, on se retrouve enfermé dans son personnage et on se met à raconter n'importe quoi. Moi, mon journal m'effraie parce que c'est parfois des logorées mythomanes où je pars dans des sens pas possibles, je m'invente des expériences folles, des rencontres hallucinantes, alors qu'en fait, ma vie est égal.
Donc c'est déjà de la fiction en fait, vous êtes déjà dans le roman.
Oui, mais je trouve que l'activité du journal est géniale parce que ça oblige à y retourner tout le temps et c'est un matériau assez intéressant en littérature en tout cas.
À trois, on saute et porté par une plume à la fois enjouée et terrible. Nous allons en écouter un extrait lu par Nina Gandara.
Rachel allume la friteuse encerclée par une horde de gamins. Elle leur explique qu'elle est omnivorace. C'est son nouveau mot. Elle l'a appris ce matin. Les gosses sont penchés sur la friteuse. Solange ne les intéresse plus. Elle augmente le son de la télé, puis elle s'affale par terre pendant que je change ses draps. Il fait cradingue. Je retrouve des mégots partout. Pas comme ça ! Rachel s'énerve. Elle n'a plus envie de partager. Elle s'empare du couteau de Solange qu'elle agite sous le nez des gamins pour les éloigner de la friteuse. Ils se rabattent sur l'énorme créature avachie par terre qui exhale des nuages de fumée. Un knick-knack atterrit entre ses seins, elle beugle au milieu du boucan. J'utilise le couteau pour gratter le fromage qui a fondu sur le plancher. Les gamins s'esclaffent. Je me retourne, un petit merdeux couvert de varicelle a baissé son fut. Il est en train de pisser sur la porte du frigo. Je brandis un couteau de boucher en menaçant de tous les décapiter. Ils foutent le camp. L'huile est chaude. Rachel plonge 1 €, la pièce ressort dorée. On dirait un trésor. On souffle dessus pour la refroidir. Solange écrase sa clope contre le mur. Vous êtes 2 dégénérés.
« et bon appétit à ceux et celles qui nous écoutent à 12h14. Donc c'est une scène fidèle au roman, à la fois burlesque, violente et aussi poétique, dans laquelle les deux héroïnes du livre, donc Rachel et Marie, malmènent Solange qui est l'ancienne tutrice de Rachel. Et Rachel et Marie fonctionnent vraiment en duo, elles font tout ensemble, elles vivent sur le même bateau, il est amarré à Liège, on l'a dit, elles volent, elles arnaquent les gens, et elles font l'amour aussi, notamment avec Sam, l'ancien petit ami de Solange. Et Solange, c'est vraiment cette femme monstrueuse, on reparlera des figures de la mère monstre. Mais d'abord parlons de ce duo, Rachel et Marie, chez vous, Charlotte Bourlard. C'est vraiment une paire, un rempart, Rachel et Marie contre le reste du monde. Comment est-ce que vous définissez leur lien, amitié, sororité, un lien presque un peu amoureux ?
Moi, je pense que c'est tout ça à la fois. J'adore les histoires d'amitié parce qu'on peut leur faire confiance, elles sont solides. Et en fait, les deux, séparément, ne sont pas très équilibrées, mais à elles deux, elles trouvent un équilibre et elles s'apportent. Il y a Marie qui accompagne Rachel dans sa folie et Rachel qui se retrouve protégée aussi, qui trouve une protection grâce à Marie. Et en fait, leur amitié les protège du monde extérieur. Et c'est vrai qu'elles ne se tracassent... elles vivent vraiment dans une bulle où elles ne se tracassent ni des autres, ni des conséquences de leurs actes, ni du lendemain. Elles vivent l'une pour l'autre, l'une par rapport à l'autre.
Mmh. Rachel est plus âgée, mais c'est Marie qui la protège, qui fait office de guide et de protectrice dans ce monde hostile.
Mais Rachel est plus âgée, mais elle a toujours 10 ans dans sa tête. Elle est un peu simplette et en même temps, elle est maligne à sa façon. Elle est beaucoup moins bête qu'elle n'en a l'air. Et en fait, c'est Marie qui va lui apprendre à utiliser cette apparence innocente pour arnaquer toutes sortes d'individus et partir des apparences qu'on dégage pour arriver à en jouer et à manipuler les gens, en fait.
Votre écriture, Esther Teilhard, est vibratoire, elle est trash, elle est incarnée. On découvre un extrait de Carn, lu par Margot Page.
Nous arrivons devant sa porte. Il enlève sa main de mon cul pour attraper ses clés. L'appartement n'est pas très grand. La bibliothèque grignote le salon. J'aperçois une porte au fond, à gauche, sa chambre, probablement. Je ne sais pas si je dois enlever mes chaussures ou les garder. Il me demande si j'ai faim, je lui réponds que non. C'est faux. Mon ventre me trahit en chantant. Il part dans la cuisine. Il revient 5 minutes plus tard avec une pizza décongelée sur laquelle il déverse le contenu d'un sachet d'huile piquante. Il mange avec appétit et parle la bouche pleine. Il me dit que ma mère doit être une belle femme. Je réponds « Non, ma mère est moche ». Il me dit « C'est intéressant ». Il a fini sa pizza. Il me dit de me lever. Il baisse ma culotte, insère l'index doucement. Pousse le majeur plus fort. Il ne parle plus maintenant. Il ajoute l'annulaire. Il est muet. Ses doigts sont charnus comme ceux des petits hommes. Mon désir monte, il s'arrête juste avant que je jouisse. Je remets ma culotte toute seule. Il me fait un bisou sur la joue, il a passé une soirée délicieuse. Mais il a du travail. Il se lève tôt pour écrire. Il me dit de prendre soin de moi, de lui envoyer un message quand je suis arrivée. Prends Uber avec ma carte. Je découvre son nom de famille en remplissant ses informations bancaires. Noé Arès. Il me redonne ma veste, il la boutonne jusqu'en haut. Il fait ça bien, il ne galère pas, il n'y a pas d'hésitation dans ses gestes. Comme quand il parle du viol de sa mère. Dans le Uber, des larmes me montent sans prévenir. Il est 4h03. Le chauffeur m'observe dans le rétroviseur interne. Il a le regard vif comme celui des travailleurs de la nuit. Ou du Saint-Jérôme de Dürer. La douleur monte. Je rentre chez moi pliée en deux. Je cours aux toilettes, je baisse ma culotte. Elle est orange. Couleur huile piquante sur pizza surgelée.
Esther Teilhard, c'est un passage qui montre de votre héroïne après un rendez-vous avec Noé, un écrivain accro au porno, plus âgé qu'elle. Et ce passage, je l'ai choisi parce qu'il montre vraiment le monde dans lequel évolue votre héroïne, un monde où le désir est partout, le plaisir nulle part. Qu'est-ce que dit cette sauce piquante au fond d'une culotte, de la nature, des rapports entre les êtres dans votre livre ?
Ce que cette scène montre... C'est probablement que les individus sont impénétrables les uns aux autres, qu'ils ont beau tenter brièvement de s'emboîter. Parfois, ça ne passe pas. Ils ne se comprennent pas. Et c'est une scène... C'est vrai, c'est une scène où le désir est présent, parce qu'il y a un vrai désir de cette narratrice pour cet homme qu'elle rencontre. Et en même temps, il n'y a absolument aucun plaisir. Et c'est tout le... C'est toute l'idée du roman où le désir est traité de manière très froide, sous une lumière presque médicale, de manière aseptisée. Et il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de jouissance, il n'y a pas d'éclat. Ça reste toujours extrêmement glacial.
Et s'il y a des duos dans le livre, un duo dans le livre de Charlotte Bourlard, À Trois en Saute, chez vous, dans Carne, Esther Teilhard, il y a surtout des duels. La sororité est absente, des liens entre les femmes dans ce livre. Vous n'y croyez pas à cette osmose possible entre deux amies, deux sœurs ou un compagnonnage féminin?
Si, j'y crois parce que j'ai grandi à Marseille, entourée de femmes méditerranéennes à qui je dois tout. Donc bien sûr que j'y crois. En revanche, le terme aseptisé de sororité, je le trouve aseptisé, aussi aseptisé que cette scène. Je crois aux entraides chaudes qui ne se revendiquent pas dans le livre. Je suis pas d'accord avec vous, Élise. Il y a des liens forts entre les femmes. D'ailleurs, il y a presque que des femmes, il y a très peu d'hommes. Et les femmes parfois se haïssent, mais parfois s'étreignent aussi et se poussent et s'apprennent à vivre et à onduler dans la vie. Et c'est juste que c'est par phase. Il y a des phases de brutalité, de comparaison, parce que ça fait partie de la vie. Et il y a des phases aussi de grande tendresse et d'aide, de solidarité entre ces femmes. C'est, si on doit parler de sororité, c'est une forme de sororité dépravée, une sororité sale. Ça m'intéresse. Les liens féminins violents, brutaux, parce qu'ils existent et qu'on n'en parle jamais, c'est eux que j'avais envie de traiter, et non pas l'amitié où deux poupées se font des tresses lors d'une soirée pyjama.
C'est l'amour-haine entre les femmes, avec vous le clash, Esther Teilhard. Vos héroïnes se disent dégénérées, Charlotte Bourlard, dégénérées entre guillemets. Hein. On l'a entendu dans l'extrait lu précédemment, ça revient à plusieurs reprises ce terme dans le roman. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour elles être dégénérées?
En fait, c'est un regard extérieur qu'on pose sur elles. Elles ont la liberté non seulement de ne rien prendre au sérieux, mais... je ne sais plus ce que je voulais dire, excusez-moi.
Respirer tranquillement, on parlait du sens du mot dégénérer.
Mais en fait, elle se fiche complètement du regard extérieur. Et donc, on est tous dans notre société tellement soumis au regard extérieur et à l'apparence qu'on veut transmettre de nous-mêmes. Et en fait, je pense que c'est leur grande liberté à toutes les deux, c'est de se foutre de ce regard, sauf quand il s'agit d'arnaquer quelqu'un. Alors là, elles sont très attentives à l'image qu'elles vont produire.
Là, elles se réinventent, puisque justement, leurs noms ne sont pas leurs noms. Elles ne s'appellent pas vraiment Marie et Rachel. Elles ont chacune choisi un patronyme pour se rebaptiser. Et puis, à chaque fois qu'elles croisent des gens dans le train, eh bien, un peu comme vous avec votre biographie sur Internet, elles inventent un conte, une légende. Elles font croire à une dame qu'elle s'est fait voler sa carte bleue, alors qu'en fait, elles-mêmes sont en train de lui voler sa carte bleue. Donc vraiment, ce sont des êtres qui passent d'une identité à l'autre. Est-ce que c'est ça aussi, être dégénéré, finalement, c'est ne pas vraiment savoir qui on est, ne pas être capable de donner une définition de soi?
Bah, ou alors, elle s'octroie la liberté d'être différentes personnes à différents moments. Et c'est la société qui les considère comme dégénérées. Et en fait, ce sont deux femmes qui ont été malmenées par l'existence et qui vont prendre leur revanche sur l'existence. Et toute la violence qu'elles ont subie toute leur vie, à partir du moment où elles se sont trouvées et où elles vont s'épauler l'une l'autre, elles vont faire rejaillir cette violence sur la société, sur les gens qu'elles croisent, avec aussi des élans de solidarité envers certaines personnes qui leur ressemblent et pour qui elles éprouvent une certaine forme d'empathie ou de sympathie. Mais c'est vrai que, voilà, peut-être on peut les considérer comme dégénérées. Moi, c'est pas comme ça que je les vois,
non.
En tout cas.
Justement, la sociologue Caroline Cardi parle de la violence au féminin. C'était sur Arte Radio en 2021.
On a une société qui ne reconnaît pas aux femmes la capacité d'être violente. et au fond qu'il leur ôte ce pouvoir-là, puisque même dans nos sociétés démocratiques, faire usage de la violence, avoir accès au pouvoir de violence, est un enjeu important. Donc on a plein de manières d'invisibiliser cette violence, soit carrément de ne pas la parler, et l'histoire et l'historiographie a très bien joué son coup de ce point de vue-là, puisque on a fait une histoire, et notamment une histoire de la violence, sans penser celle des femmes. On peut la pathologiser en disant, bah, au fond, elle est exceptionnelle. Elle est chez des femmes qui vont tellement mal qu'elles font usage de cette violence. Tout ça, c'est des manières, au fond, de la rendre impensable. Alors, par exemple, comme ça, on redécouvre sans cesse que les filles peuvent commettre des actes de délinquance en bande, comme si les bandes de filles n'avaient jamais existé, alors que les bandes de filles ont toujours existé. On en trouve des traces, historiquement, de cette panique morale autour des filles. Depuis longtemps, en fait, depuis qu'on s'inquiète de ces jeunes dans la rue. On a tout un tas de manières, comme ça, d'invisibiliser cette violence.
Esther Théillard, vous avez déclaré à plusieurs reprises dans différentes interviews que la violence féminine vous fascine. Pourquoi ?
Elle me fascine parce que... Alors, le mot de violence fait peur, évidemment. C'est pas pour faire l'apologie de la violence, mais je pense qu'il y a une forme d'éthique de la violence chez les femmes. Il y aurait une forme de grâce dans un rapport très violent à la vie de certaines femmes. En tout cas, moi, c'est les femmes que j'ai connues à Marseille en grandissant au milieu d'elles. Elles se dépatouillent assez bien des situations... de par leur violence, en fait, elles ont intégré la violence qu'on a projetée à leur égard et elles utilisent la violence pour s'en tirer dans la vie. Et en fait, c'est un rapport brutal et passionné et chaud à la vie que je trouve parfois génial. Et j'ai pas honte de dire que la violence peut être utile chez certaines femmes. Par violence, j'entends passion, en fait.
Vos personnages féminins, Rachel et Marie, Charlotte Bourlard, sont aussi des gens qui ont intégré la violence avec des enfances complètement fracassées, des mères qui ne s'en sont pas occupées ou des tutrices qui ne s'en sont pas occupées. Et elles en font quelque chose aussi. Est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire Esther Théillard?
En fait, j'aime beaucoup les personnages qui veulent plus que ce que la vie leur avait promis. Et c'est exactement... Elles n'acceptent pas, Marie et Rachel n'acceptent pas les cartes qu'on leur a distribuées. Et donc, elles veulent plus. Et c'est vrai que ça passe par la violence. C'est une forme de volonté, en fait, la violence. Mais c'est une volonté qui se bouscule et...
Elles sont dans une forme étrange à la fois de cruauté et d'empathie avec le monde. Elles fonctionnent étrangement avec l'autre.
Je crois que je suis très fort comme ça. Oui, elles sont à la fois, elles peuvent se montrer extrêmement généreuses et tendres, et en même temps, quand il s'agit de se débrouiller et de, elles tracent leur chemin et ça implique de la violence mais c'est de la débrouille. Et...
Très brièvement, en un mot, comment s'écrit la suite pour vous? Comment se trace le chemin, Charlotte Bourlard?
Le chemin
de l'écriture. Vous êtes travaillé sur un prochain livre?
Alors là, je suis en plein dedans.
Et vous, Esther Théillard?
En plein dedans aussi.
Merci d'avoir été avec nous pour cette première partie des Midis de Culture, Esther Théillard. Je rappelle que vous avez publié Carnes aux éditions Pauvert. Charlotte Bourlard, vous avez publié À Trois, on saute, au diable vos vers. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie des Midis de Culture. Nous recevrons le duo d'artistes Aurélie Ferruel et Florentine Guédon qui exposent au Voyage à Nantes 2025.
France Culture. Les Midis de Culture. Élise Lépine.
Bienvenue dans cette deuxième partie des Midis de Culture. Je suis en compagnie de deux artistes françaises, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon, qui forment le duo Ferruel et Guédon, et exposent au Voyage à Nantes cet été une œuvre intitulée Bras dessus, bras dessous. Bienvenue Aurélie Ferruel et Florentine Guédon.
Merci.
Vous exposez donc au Voyage à Nantes. Depuis 2012, chaque été, le Voyage à Nantes propose une multitude d'installations culturelles dans la ville, reliées par une ligne verte tracée au sol. Elle conduit les visiteurs d'œuvres originales signées d'artistes contemporains en œuvres patrimoniales et ouvre nos imaginaires à travers une promenade artistique et culturelle dans la ville. Cette année, le temps fort estival du Voyage à Nantes se tient du 28 juin au 31 août 2025. La saison d'été 2025 est placée sous le signe de l'étrangeté et a été conçue reçu par Jean Blaise, le directeur de l'organisme et ses équipes. On peut admirer les œuvres notamment des artistes Ivan Argote, Gloria Friedman, Willem de Haan et vous, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Alors, toutes les deux, vous collaborez depuis 2010. Vous vous êtes rencontrées aux Beaux-Arts d'Angers. Entre vous, c'est un coup de foudre à la fois amical et artistique. Comment s'est mise en place votre collaboration, votre duo artistique, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon?
Bah, effectivement, il y a vraiment cette relation d'amitié, de beaucoup échanger l'une et l'autre, et une relation, un amour pour la matière. On ne partage pas d'ailleurs le même amour, on n'a pas les mêmes amants, nos amants sont différents. Pour moi, c'est le bois et le verre, et pour toi...
C'est plutôt les textiles et la céramique, et en fait, c'est vraiment naturellement que les choses se sont faites. Et je crois que dans cette relation qu'on lie avec la matière, eh bien, au-delà de la matière même, il y avait aussi les sujets qui nous ont rapprochés, et le milieu dans lequel on a évolué aussi et grandi, qui nous a rapprochés et nous a fait aussi comme une sorte de terrain commun de recherche.
Alors, quel était-il ce milieu-là? C'était Florentine Guédon qui parlait en deuxième et en premier, Aurélie Ferruel. Florentine Guédon, vous êtes originaire de Vendée, Aurélie Ferruel de Basse-Normandie. J'ai lu qu'à l'école, on vous surnommait, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, les sœurs moissonneuses-batteuses. Est-ce que vous êtes, donc, si j'ai bien compris, attachée à vos lieux d'origine? Est-ce que c'est ce rapport à la ruralité qui vous a rapprochée?
Bah, je pense qu'effectivement, le fait qu'on soit lié à la terre, mais aussi un travail commun, je pense qu'on avait déjà aussi avec nos familles ce besoin de travailler de manière collective. Et ça, c'est quelque chose qu'on a continué aussi dans notre duo et aussi avec toutes les personnes qu'on rencontre aujourd'hui dans tous nos projets.
Parce qu'effectivement, on signe les projets à chaque fois de nos deux noms, mais derrière, tout le temps, à chaque fois et depuis le départ, c'est toujours une histoire collective. Et notamment là, comme pour le projet du voyage à Nantes, c'est vraiment un projet qui s'inscrit avec à la fois dans la conception même jusqu'à la réalisation et l'installation. C'est toujours une histoire collective. Derrière, il y a toute une équipe qui nous accompagne et qui nous aide à mettre en place les choses, en fait.
Vous avez beaucoup exposé ensemble depuis Pêche et Chasse en 2015 à Nantes. Je cite notamment La Suée du Dindon en 2020 au Crac 19 au Centre d'Art Contemporain de Montbéliard. En 2022, Avalé par un trou au Centre d'Art Contemporain de Pont-en-Royan. Léché par les ancêtres, léché au singulier, léché au ER en Allemagne. L'après-midi d'un faune aussi en Allemagne. L'an dernier au voyage à Nantes, vous avez présenté Glaner les germes. Ce sont des sculptures en graines, en verre, en pierre, dédiées aux arbres et aux graines, donc, et cette année au voyage à Nantes, bras dessus, bras dessous. Aurélie Ferruel, vous travaillez donc le bois, plutôt Florentine Guédon, le textile. Comment est-ce que, concrètement, vous mettez en commun ces matières et ces techniques? Comment est-ce que vous travaillez? Vous me disiez juste avant que vous n'êtes géographiquement pas au même endroit. Là, vous arrivez de deux lieux différents. C'est assez intéressant de voir que ces produits finis, c'est l'unicité de votre travail, provient de lieux éloignés les uns des autres.
Je crois que c'est vraiment ça qui nous excite l'une et l'autre. C'est ce moment où on va vraiment réunir notre production qu'on a fait dans nos ateliers. Ça, je pense que c'est quelque chose qui nous plaît énormément.
Il y a quelque chose d'un respect aussi du rythme de chacune, comme ça, de travailler à distance. Et puis un jeu d'échange, de correspondance qui est permanent. Comme ça, du fait de la séparation géographique. Et ensuite, il y a quelque chose du jeu qui se continue dans l'espace qu'on va partager ensemble, dans l'espace d'exposition, de résidence, qui est la suite de l'aventure. Et il y a quelque chose aussi de la découverte, de la surprise que l'autre a à offrir avec les pièces. Et notamment là, sur ce projet, moi j'ai passé tout un temps de résidence dans une entreprise en Normandie, à Normandie Céramique. Donc là, c'était encore une autre façon de travailler, puisque c'était pas, j'ai pas travaillé dans mon atelier personnel, mais là, dans un atelier d'une entreprise, avec des savoir-faire, avec... j'ai pu être accompagnée et Aurélie, elle, travaillait dans la Meuse.
Ouais, dans l'Est, avec du coup l'atelier Gamil pour le verre et puis aussi avec Nantes et l'équipe du voyage à Nantes pour le bois. Donc
il y a eu différents comme ça, temporalité, moment et aussi ce temps de retrouvailles qui est intense où on arrive chacune avec une aventure différente et ensuite qu'on partage à deux.
Nous allons écouter la sculptrice Germaine Richier faire une visite de son atelier, c'est en 1955.
J'ai fait du bois en arrivant à Paris, mais ce n'était pas tout à fait une matière pour moi.
On a un peu l'impression dans vos sculptures que vous cherchez à revenir à la chose naturelle, à l'insecte, à la brindille, à la branche. Enfin, c'est peut-être inconscient.
Non, ce n'est pas inconscient, parce qu'au fond, pour retrouver des formes, c'est peut-être une prétention, mais je pense qu'il fallait partir des racines des choses. Or, la racine, c'est la racine de l'arbre. C'est la racine, c'est peut-être un membre d'un insecte.
Vous les amènerez à un point de perfection, enfin, tout au moins vous satisfaisant suffisamment pour être fondu.
Si la chose me paraît pouvoir être réalisée en bronze, je le ferai. Sans cela, comme beaucoup de sculptures, toutes les sculptures que l'on fait ne se réalisent pas. On les laisse mourir parce qu'elles ne donnent pas toujours ce qu'on veut.
Et comment meurent-elles, les statues ?
Oh, elles meurent de leur belle mort. Elles se dessèchent, la terre tombe, ou alors on les brise.
Germaine Richier, qui travaillait les matières brutes et naturelles, comme vous, est-ce que vous êtes touchée par son discours sur la matière ? Je vous voyais sourire, Florentine Guédon, en écoutant parler de la mort, de la belle mort des œuvres.
Bah, effectivement, ça parle, et notamment sur ce projet-là, parce que le projet donc Bras dessus, bras dessous, est un projet où les sculptures vont être manipulées, vont être utilisées, et donc vont aussi se patiner, recevoir des coups. Et c'est un élément essentiel dans notre travail. Notamment, là, on a, pour le plateau, réalisé un travail de céramique. Aurélie a réalisé toutes les pièces du jeu en bois. L'idée aussi n'était pas de confronter différentes matières comme ça sur le plateau entre les joueurs, mais d'avoir l'ensemble des pièces qui soient réalisées par une même matière, qui évoluent sur un plateau comme un espace physique. Et les pièces qu'Aurélie a conçues, je vais peut-être là te laisser la parole, parce que dans le jeu d'échecs, elles se mangent les unes les autres. Et ici, Aurélie a plutôt pensé à les faire s'embrasser.
C'est beau. Aurélie Ferruel, justement, est-ce que vous pouvez nous décrire ce jeu d'échecs et nous expliquer un peu voilà, comment il se présente au public ?
Eh bien, effectivement, comme le disait Florentine, il y a ce plateau donc, que tu as travaillé, vraiment l'idée d'un dessin. Et après, pour réaliser ces pièces de bois, il y a plusieurs étapes. Il y a déjà une première étape de vouloir vraiment être en relation avec le dessin de Florentine sur cette céramique, de rencontrer une naturaliste, Madame Corbeau, de pouvoir découvrir ses photos, parce que j'avais envie de baigner vraiment, d'en savoir un peu plus sur le bord de Loire, puisque ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, toute cette aventure nous amène à, du coup, travailler avec la Loire, puisque Florentine a quand même, si je reprends depuis le début sur ce travail de céramique, un travail plutôt autour de la carte. Et avec l'équipe du Voyage à Nantes, on a vraiment travaillé sur différentes archives, parce que le jeu va être installé au château, de découvrir en fait toutes ces archives, toutes ces cartes. On est dans un moment où on rencontre en plus le travail de Nathis Vert, qui travaille sur les contre-cartographies. Donc là, on a vraiment une envie de créer une fiction sur ce plateau. Et par la suite, pour ces pièces en bois, pour ma part, j'avais pas envie de travailler sur des personnages, sur des figures animales, mais plutôt sur des relations. Chaque sculpture serait relation, donc cette naturaliste me fait découvrir les frétillères pintades, la gonfle à pattes jaunes, enfin plein de choses que je ne connaissais pas, qui vont nourrir en fait ce travail de sculpture. Et dans un deuxième temps, comme toutes ces figures ne ressemblent pas du tout au jeu d'échecs, de travailler du coup sur le déplacement de chaque pièce, avec quelque chose qu'on vient greffer sur chaque sculpture, qui est une patte de verre avec le déplacement. Comme ça, tout le monde peut jouer sans forcément connaître les règles. Et effectivement, là, ce que Florentine vient d'annoncer, c'est que ce jeu, en fait, les sculptures ne sortent pas du jeu. Elles viennent s'embrasser. Quand elles se retrouvent sur la même case, elles viennent s'embriquer l'une et l'autre. Et donc là, c'est vrai qu'on se retrouve avec quelque chose qui nous fait plaisir en tant que sculptrice. C'est presque différents tableaux qui vont être mis en place à chaque partie. Presque différentes propositions des sculptures. Enfin voilà, le grand cormoran qui va se retrouver face à une autre sculpture. Enfin voilà, quelque chose qui se déploie aussi.
Il y a presque quelque chose de l'ordre du fantasme là-dedans aussi, où on ne dirige plus d'un seul coup l'installation ou la composition des sculptures. Elles vont être assemblées, empilées les unes sur les autres, s'embrasser. Il va y avoir la patine de ces embrassades, de contact, parce qu'on est quand même sur des gros éléments en bois, assez lourds, et donc il y a du fracas, il y a du contact, et donc il y a des conséquences du jeu, à la fois sur la sculpture elle-même, donc on est aussi sur une évolution de la patine de la sculpture, mais aussi sur une composition qui sera dirigée par le jeu lui-même et par les joueurs, et d'avoir un tableau comme ça mobile qui va évoluer. Et pour rebondir aussi avec ce que disait Aurélie sur ce travail autour des bords de Loire, pour nous, il était important de casser les codes extrêmement marqués du jeu d'échecs, mais aussi de l'installation comme ça dans le château, par la suite, qui là, pour le moment, il est présenté au parc des Oblates de façon éphémère, mais avec une pérennisation dans la cour du château à venir. Eh bien, pour sortir un peu de ces codes qui sont des codes de la très hiérarchique, de la compétition aussi, et de réimplanter, en fait, dans ce jeu-là, une forme symbolique plutôt d'entraide et de coopération. On a évacué toutes les formes humaines. Et on est revenu avec des formes vivantes, plutôt des bords de Loire, et aussi de passer par un scénario fictionnel d'effondrement, où la Loire reprend le dessus sur cette cartographie qui est présentée sur le jeu, qui vient noyer toutes les voies de circulation humaines, les faire disparaître, et permettre de réimplanter du vivant, et ces animaux qui viennent onduler. Donc ça, c'est des scénarios par lesquels on passe pour se libérer de ces codes et nous permettre aussi une plus large création.
Et on pourra venir donc jouer avec ce jeu d'échecs revisité bras dessus, bras dessous dans la cour du château des Ducs de Bretagne. C'est bien ça, après à la fin du voyage à Nantes. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Ferruel et Florentine Guédon d'avoir été avec nous pour ces midis de culture et on vous souhaite une bonne continuation et beaucoup d'amusement avec ce jeu d'échecs pour ce voyage à Nantes. On se quitte avec les Indes galantes, forêt paisible de Rameau. Cette émission a été préparée par Zoé Coupé, Léa Weichgruss, Lisa Dejode et Nina Gandara. À la réalisation aujourd'hui, Margot Page et Alban Pelletier. Et à la technique, Ludovic Auger.